Chapitre 9. Nicolas Poussin. Que rien ne te fasse trembler. À la boutique, Paul n'avait rien vendu pour les fêtes de fin d'année, ou si peu. Il s'était résolu à brader ses grandes affiches de cinéma et s'était notamment séparé pour quelques dizaines d'euros au lieu des centaines qu'elle méritait, d'une affiche de Stalker d'Andrei Tarkovski en parfait état et signée de la main de l'illustrateur. Elle montrait trois personnages minuscules au milieu de dunes devant une immense porte où l'on reconnaissait un masque zoomorphe rappelant un chien ou un loup. Paul avait souffert de devoir accepter le médiocre marchandage auquel s'était livré l'acheteur. Mais il en était là. Il n'avait en revanche pas cédé à Camille quand elle avait proposé de lui acheter une large collection de vinyles 33 tours, soi-disant pour les offrir à ses camarades du milieu associatif. Paul y avait bien vu la marque de l'amour réel de sa femme, mais il avait également senti une insupportable part de pitié. Ses problèmes de trésorerie devenaient préoccupants au point qu'il veillait désormais à réduire l'ensemble des charges. L'hiver avait beau être rigoureux, il s'acharnait à éteindre les convecteurs et n'usait que d'un minimum de lumière. Mais il ne lésinait pas sur le vin rouge qui s'avérait d'une chaleur réconfortante. Il le savait pourtant. L'effet de l'alcool sur la dilatation des vaisseaux était provisoire et trompeur, et il ne fallait surtout pas imaginer qu'il aidait à lutter efficacement contre la sensation de froid. Paul n'en avait cure. Après l'école, Mona s'était rendue à la brocante, un jour où Camille avait dû prolonger un travail de comptabilité dans l'association de défense des sans-papiers maliens qui soutenait le foyer de la rue Barra à Montreuil. Mona adorait faire semblant de travailler comme un adulte, et Paul, pour la distraire, lui confiait de petites tâches qu'elle réalisait avec application. Elle se projetait, impatiente, dans la vie d'une grande, toute fière, et ne comprenait pas ses parents quand ils regrettaient le temps de l'école et de l'enfance. À la brocante, Mona avait deux craintes. Le porte-bouteille en acier hérissé de multiples bras ou pics, qui lui évoquait confusément un monstre infâme, et la trappe qui menait à une immense cave obscure. Elle n'éprouvait en revanche aucune réticence à se claquemurer dans l'arrière-boutique, où elle avait l'habitude de recopier pour le compte de Paul des références de vieilles revues américaines chinées un peu partout. Les titres, en anglais, sécrétaient une sorte de magie incantatoire. Les opuscules étaient souvent rongés par des champignons, mais il y avait des amateurs à travers le monde entier, son père le lui répétait suffisamment. Tandis que Paul décrassait un jukebox qui poussait un son trop sourd, elle menait sa tâche avec un soin de moine copiste. De vieux tubes de France Gall résonnaient en boucle dans la brocante. Alors que passait Cézanne Pain, la poussière fit si brusquement éternuer Mona qu'elle en fut propulsée en arrière et percuta une étagère d'où chuta une énorme boîte qui s'éventra sur le champ. La fillette, au lieu d'appeler son père, l'examina et y découvrit, éparpillée sur un stock de magazine Life, des dizaines de petites figurines en plomb manifestement oubliées. Malgré le maigre éclairage de la pièce, elle devina, du bout des doigts, une finesse qui la charma. Était-ce là des jouets, des bibelots à vocation décorative? Elle caressa la miniature d'un bouffon claquant des cymbales, dont elle admira la subtilité des reliefs et les touches de couleurs nacrées, en particulier le rouge du bonnet. Cette beauté la décida à poser l'objet sur un présentoir de la boutique, dans un angle perdu de la vaste salle où étaient exposées les marchandises. Mona se disait que son père ne ferait de toute façon pas attention à cette figurine, petite, si petite, et que celle-ci, en retour, veillerait sur lui, comblerait dans l'ombre un peu de sa solitude. Le temps était venteux, et le Louvre, chauffé, semblait dorloter ses visiteurs dans une grande enveloppe de soie. Mona portait un énorme manteau à capuche et des bottes fourrées débordantes de poils blancs. Son allure contrastait de façon saisissante avec le tableau printanier que l'emmena voir son grand-père. Quatre bergers dans la nature entouraient un tombeau en pierre gris, lequel dominait la composition en son centre. Il mesurait environ 1,5 mètre de hauteur si on le comparait au personnage. Trois d'entre eux étaient de sexe masculin. Posté à l'angle gauche du monument, l'un était debout, accoudé au couvercle, appuyé sur un grand bâton, jeune, habillé d'un drapé blanc virant au rose, et ses cheveux bouclés couronnés de lierre. Il observait un deuxième pâtre accroupi à ses côtés, couvert à demi et plus mûr d'après sa barbe brune, qui examinait une phrase inscrite sur le tombeau. Posté à l'angle droit de celui-ci, le troisième personnage masculin faisait face aux deux premiers. Lui aussi fort jeune, vêtu d'un drapé rouge, il était debout mais penché, un pied chaussé d'une sandale blanche posée sur une pierre équarrie, et pointait de l'index les mots gravés. Mais sa tête s'en détournait. Il jetait un regard vers un quatrième personnage, féminin cette fois, qui avait posé une main sur son épaule. Cette femme était habillée de jaune et de bleu, le crâne enturbanné. Elle souriait, réprimait un rire peut-être. L'ensemble était tracé avec une clarté parfaite. Seules échappaient à la netteté générale les 14 lettres creusant le sépulcre. Elles étaient un peu effacées, un peu masquées par l'ombre et les membres des deux pasteurs aux genoux fléchis. Au loin, il y avait deux arbres, et plus proche, un groupe de troncs et de feuillages. On apercevait à l'horizon un paysage escarpé de montagnes, sous un ciel bleu où s'étiraient quelques nuages. C'était une atmosphère de jour finissant, quoique très limpide. « Eh bien, Mona, te voilà le nez dans la peinture depuis 15 minutes, immobile comme une branche et le dos voûté. Fais attention, il va casser. »«
Oh, Dadé, attends encore un peu. »
Henri regardait Mona et la sentait lutter devant le tableau, lutter de même que ses bergers luttaient devant le tombeau. Il y avait un écho saisissant entre sa petite fille à l'extérieur du cadre et les personnages qui se trouvaient en son sein. Henri pensait en outre aux nombreuses hypothèses d'interprétation plus savantes les unes que les autres qu'il avait lues au sujet de ce chef-d'œuvre, en particulier à celle d'Erwin Panofsky. Ah, Panofsky! Ce nom, au panthéon de l'histoire de l'art, était totalement inconnu du grand public. Mais Henri le vénérait comme les spécialistes de l'atome admirent Einstein. Et de même qu'Einstein ambitionnait de découvrir la loi cardinale qui unirait les quatre lois de la physique, Panofsky avait cherché une sorte de loi ultime du regard et de l'image, sans bien sûr y parvenir tout à fait. Cela fascinait Henri, parce que rien ne semble plus évident que le rapport au monde par le regard, et que rien n'est pourtant plus insaisissable.
« Bon, Dadé, j'abandonne, » lança brutalement Mona. « Qu'est-ce qui est donc écrit sur cette pierre? J'ai bien vu qu'il fallait lire le message puisqu'il préoccupe tout le monde dans le tableau. Mais moi, je bloque. »«
Vraiment? C'est pourtant une locution latine assez simple. »«
Mais j'ignore tout du latin, Dadé. »«
Je sais, je te taquine. Et d'ailleurs, je ne le parle plus non plus. »«
Mais je connais quand même cette phrase. Il est écrit « Et in Arcadia ego »,
ce qui signifie de manière elliptique « Moi aussi, j'ai vécu en Arcadie. »
« Où ça ?»« En Arcadie. » C'est aujourd'hui encore une région du Péloponnèse au cœur de la Grèce.
Pour un esprit cultivé du XVIIe siècle, l'indication ne posait pas de difficulté car à l'époque, on lisait abondamment la littérature antique. Or, dans la mythologie, chez Virgile ou Ovide, par exemple, qui naquirent l'un et l'autre au 1er siècle avant Jésus-Christ, il s'agissait d'une région de bergers où la vie avait la réputation d'être extraordinairement douce et plaisante. L'Arcadie était le territoire du bonheur.
Et c'est cela que nous montre l'artiste?
Oui. Nicolas Poussin n'est jamais allé en Grèce. Mais enfin, c'est bien ce pays qu'il peint avec son charme et sa beauté bucolique. Et au fond, durant sa longue carrière, toute sa vision, toutes ses représentations de la nature expriment cet idéal arcadien. Un équilibre entre une prodigalité rassurante et une grande simplicité. Rien qui soit trop, rien qui soit trop peu. Une absolue nécessité où rien ne pèse et où rien ne manque.
Bah, moi, tu sais, quand papa et maman regardent des paysages, je pense à autre chose. Parfois même, je dois avouer que ça m'embête copieusement de me promener avec eux, surtout quand ils ont l'air très amoureux et me disent d'aller jouer.
Henri songea à cette phrase du peintre Francis Picabia. Devant l'immobilité de la campagne, je m'ennuie tant que l'envie me prend de manger des arbres. Mais il était inutile de perturber davantage Mona. Il garda donc ce trait pour lui et reprit ses explications. La nature n'est pas parfaite. Il appartient donc au peintre de la corriger. Au XVIIe siècle, circulait un ouvrage important écrit en italien par un certain Lomazzo. Ce Lomazzo disait qu'un artiste, quand il figurait la nature, devait la corriger à trois niveaux. En conférant un intervalle adéquat entre ses différentes parties, en soignant ses proportions, en répartissant avec bonheur les éléments de la palette. Juste ce qu'il faut de lignes, juste ce qu'il faut de couleurs.
Et Poussin a suivi les règles ?
Oui, mais il a fait plus, beaucoup plus. Poussin est extraordinairement sobre. Il cherche la stabilité. Il fait preuve d'une grande économie de moyens. Il est en ce sens apparenté au classicisme du XVIIe siècle, par opposition à ce qu'on a nommé avec mépris le baroque, un mot qui signifie « perle irrégulière ». Tout est régulier, tout est réglé chez Poussin. C'est ce qui rend aujourd'hui son pouvoir de séduction moins immédiat. Il n'a pas la force de percussion de ses contemporains comme Rubens, Simon Vouet ou d'autres, dont l'art frappe l'imagination par des tourbillons de contrastes, de mouvements et de passions. De Caravage, ce maître italien du clair-obscur dont nous avons parlé rapidement au sujet de Rembrandt, Poussin disait d'ailleurs qu'il était venu au monde pour détruire la peinture. Poussin aurait détesté nos films d'action d'aujourd'hui.
C'est probable.
D'autant qu'il privilégie le tableau de Chevalet, avec ses formats modestes, son caractère ramassé et synthétique, plutôt que les grands décors monumentaux foisonnant de scènes et de figures.
Dans ce tableau, les personnages ressemblent un peu à des sculptures.
Tu as raison. Même s'il n'a pas été sculpteur, Poussin avait pour méthode de façonner d'abord de petits personnages de cire, qu'il disposait dans une boîte fermée. Il exécutait en fait des maquettes en trois dimensions de ses tableaux, avec une ouverture pour son œil et des trouées sur les pans latéraux qui laissaient pénétrer la lumière. Dans ce théâtre en miniature, il éprouvait ainsi l'éclairage le plus conforme, et bien sûr l'organisation et l'expressivité de ses personnages au service de son sujet.
Et il a été célèbre, Poussin ?
Poussin a eu une drôle de vie. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur en France au début de sa carrière. Il part pour Rome en 1624 afin d'y faire carrière. Acquiert dans la ville éternelle une grande renommée avec des tableaux à valeur morale, puis est rappelé en France par Louis XIII en 1642 pour devenir premier peintre du roi. C'était un titre prestigieux, mais cela ne lui convainc pas. Je te l'ai dit, Poussin était à l'aise lorsqu'il s'agissait de procéder lentement, posément, sur des petits formats extrêmement pensés, des tableaux de chevalet. Or, à l'époque, un artiste doté de fonctions importantes devait en outre réaliser pour la monarchie des œuvres monumentales, avec l'appui d'un atelier, des travaux colossaux, tapisseries, décors, et se mettre au service d'un message politique. Cela devait être un homme d'action, en quelque sorte. Et Poussin ne l'était pas. L'expérience française tourna court, et il repartit très vite en Italie, où il termina sa vie. Il mourut à 71 ans. C'était vieux pour l'époque. Mona resta interdite et regarda son grand-père qui souriait malicieusement. Il avait pour sa part dépassé depuis longtemps cet âge-là, et il était immortel à ses yeux.
« Toi, Dadé, tu préfères quoi entre la France et l'Italie ?»«
Les Alpes, ma chérie !» L'enfant ne comprit pas le trait d'esprit. « Quoi qu'il en soit, ce tableau est exécuté en Italie. » Et précède de peu son départ pour la France.
Regarde bien. Ces trois bergers et cette nymphe sont intrigués. Ils découvrent cette inscription sur la sépulture. Moi aussi, j'ai vécu en Arcadie. Les historiens de l'art se sont beaucoup disputés sur l'identité de ce moi, de ce je. Est-ce l'individu mort qui, d'outre-tombe, dit ces mots? Dans ce cas, il s'agit d'une confession, sous la forme d'une épitaphe, de la part d'un berger défunt qui annonce la brièveté de l'existence à ses frères arcadiens. Ou est-ce la mort elle-même qui parle? Dans ce cas, elle prévient qu'elle sévit partout, y compris dans un pays idyllique où personne n'imagine disparaître un jour. Le tableau a une valeur morale très claire. Les bergers d'Arcadie découvrent que même si leur vie est merveilleusement plaisante et insouciante, elle est vouée à s'arrêter. Le tableau est ce qu'on appelle un « memento mori », encore une locution latine, Mona, ce qui signifie « rappelle-toi que tu vas mourir ». Mais pourquoi sur le côté, la femme sourit? Parce que rien, pas même la mort, ne mérite que l'on tremble. Poussin, en évitant de dramatiser son sujet, en prêtant à ses personnages une grandeur, une sévérité qui les font ressembler à des statues de marbre, invite son spectateur à l'élévation morale et à cette hauteur d'esprit qui écarte toute fébrilité. J'ai l'impression que je comprends, Dadé. En fait, Poussin a un style calme. C'est loin d'être agité parce qu'il veut que sa peinture soit à la hauteur de... Elle buta sur la fin de sa démonstration. De cette élévation morale. Elle acquiesça avec conviction, l'air très sérieux. Et je vais te dire mieux. Poussin avait été blessé à la main droite dans une rixe à Rome quand il était jeune. Il manqua de la perdre. Tu réalises évidemment la tragédie que cela aurait été pour son destin d'artiste, n'est-ce pas? Mais ses ennuis ne s'arrêtent pas là. Plus tard, dans sa correspondance, il se plaignit d'être atteint d'un détestable handicap. Dès 1642, il confie que sa main se met à trembler. C'était sans doute dû à l'effet de maladies diverses, et peut-être des traitements médicaux de l'époque. Cette gêne ne cesse de s'aggraver jusqu'à sa mort. Eh bien, il surmonta cette infirmité pendant plus de 20 ans, prit encore davantage de temps et de soins pour produire des œuvres d'une extraordinaire stabilité esthétique. Jamais ces tableaux ne portent trace des secousses qui altéraient ses mouvements. Entends-tu ce paradoxe? Même tremblant, Poussin ne trembla jamais devant rien. Et sa peinture nous exhorte à cette dignité. Dis, est-ce que tu trembles, Dadé, quand tu penses à la mort? En tout cas, jamais quand je pense à la mienne. Ah, mais alors, tu crois en Dieu? On ne croit pas sans douter, Mona. C'est-à-dire, Dadé? C'est-à-dire que je doute beaucoup en lui.